Oh, yes, sir. That's what I'm talking about.
Hitting bombs.
High, nasty, straight bombs. Oh, it landed 3 feet from the cup.
It did. It was pure. It was right on it. You did hit it a little too long.
That is salty.
Bonjour, mesdames et mesdames. Bienvenue dans un autre épisode du podcast.
Un podcast inclusif.
Oh oui, très inclusif, surtout envers les personnes qui travaillent dans les ressources humaines. On essaie d'être le plus inclusif possible avec eux autres. Toujours eux autres qui ont les idées, genre, on va envoyer un courriel à tous nos employés pour le jour de la Terre, puis on va faire signer ça par le CEO.
On va créer... Créons un processus.
Oui. Ça prend un processus. On va faire des analyses comparatives là, pour ça, puis on va arriver avec une charte. Mais ouais, si vous demandez pourquoi on part avec ça, ben moi j'avais du Crown Royal au pêche quand c'était assis pour commencer à patente, mais il est quasiment vide.
mon verre est vide aussi.
Nick, il n'y a plus de Pink Whitney, pourtant. On s'est juste assis il y a une heure, puis on n'a pas posé sur record parce qu'on s'est dit on parle pas de golf encore, esti. Fait que là, ben c'est ça. Mais nous voici donc dans un autre épisode du podcast. Mais c'est ça, on s'est un peu, là, comment on dirait ça, là, défoulé sur...
passé un petit 45 minutes. Un de nos fidèles auditeurs, M. Renard Bernard, le paternel, me parlait souvent des ressources humaines étant les restants humains. Là.
C'est drôle, attends.
Et désolé à toute personne qui écoute le podcast qui est dans les ressources humaines, nous on vous apprécie, juste oui. Vous autres. Mais pour ce qui est du reste, nos restants humains plus les restants humains à Marco, on a un petit peu des challenges présentement avec ce département-là.
Oui.
Donc,
oui,
c'est ça.
C'est bien dit, des challenges, ouais, c'est ça. Des issues en anglais, comme on dit, l'anglicisme.
Ouais. Mais étant donné qu'on est un podcast inclusif, ceux qui écoutent le podcast et sont dans les ressources humaines, ceux-là, on les apprécie.
Oui.
Cher mentionné.
Oui, même, envoyez-nous à le podcast sur Twitter. Envoyez-nous vos histoires les plus loufoques de ressources humaines. On va bien se bidonner. Peut-être dans le fond, on pourrait faire un spin-off du podcast, Nick. On pourrait appeler ça le...
On pourrait faire beaucoup de spin-off, je dirais, sur plusieurs sujets.
Ouais. On va faire un podcast de taxes et impôts. Après ça, on va faire un podcast d'immobilier. Après ça, on va faire un podcast de ressources humaines.
Fait que, le problème, c'est que il va nous manquer un peu de temps parce que on n'a même pas assez de temps pour faire un podcast par semaine sur le golf. Imagine-toi...
Non, puis le golf, ça nous passionne. On s'entend que les HR, va falloir trouver le temps solide là, parce que c'est pas... on
c'est
en parle
podcast.
Avec beaucoup de passion, mais ça nous passionne pas dans le sens pur du terme, tu comprends?
Exact.
Non, en plus mais Malone, tennis, j'espère que tu finiras pas à 10h, si. Je dis, ouais, non, c'est correct, on part à 7h30 à soir. Mm. Tu finirais pas ça à 10h30, là? Ouais.
Oups.
Ça part mal.
Mais il y a Denis de Bilouffon qui part son podcast, je sais pas trop quoi, là. Il est retraité, fait que peut-être qu'on pourrait aller jaser avec lui de ressources humaines.
Oui. Mm. Mais c'est son podcast Business 101. Il y a une première saison à son podcast, Denis.
Oui.
C'est la deuxième saison qui s'amorce maintenant, effectivement, qui a un peu de temps libre.
Oui,
tu sais,
un petit peu.
En même temps... Tu sais, faire des podcasts, c'est pas trop dispendieux, fait que ça le mettra pas à la rue. Là. un micro.
Surtout que son terrain de golf était fermé en fin de semaine.
Oui! Pour le tournoi du Korn Ferry Tour. Mais en fait, j'y ai même pas demandé, mais je me demande s'ils ont pas. Parce que c'est sur un terrain, évidemment, puis ils ont deux terrains. Fait que je me demande s'ils n'ont pas laissé l'autre ouvert, mais en même temps, je me dis, sur le champ de pratique, les accès, ça doit être compliqué à gérer. Fait que d'après moi, ça doit être fermé pas mal.
On ferme tout.
Ouais, d'après moi, oui. Mais de toute façon, tu vois, ça a été déplacé, entre autres, j'avais demandé ça à Denis. Le tournoi se tenait au mois de février avant, puis ça avait été déplacé à la fin avril parce qu'il y a beaucoup moins de snowbirds. Parce que les membres, c'était plein. Là.
OK.
Hein?
Les snowbirds, c'est pas juste québécois, là. C'est,
Non, c'est de tous les États, là. Mais il y a beaucoup de membres qui s'étaient plaints de ce tournoi-là parce que ça lui prenait une semaine complète en plein mois de février, tati, tata. Fait que lui, on dit, bon, parfait, on va vous mettre ça à la fin avril ou à la mi-avril, mettons.
Parce que des fois, on pense que le terme snowbird, c'est juste québécois, mais il y a plusieurs États et provinces qui a de la neige puis que le monde s'en va dans le sud, soit en Arizona, plus ou moins en Californie ces temps-ci, mais en Floride aussi.
Ah oui, beaucoup. Là. Écoute, du Michigan, du Illinois, du Ohio, ici, il y en a en six mois. D'ailleurs, mon voisin sympathique, qui, comme on dit, vit le rêve, là, à chaque soir, il revient avec son kart en essayant de le parquer un peu malhabilement parce qu'il est bien chaud. Est-ce-t-il? Il y a à peu près une caisse de billets de ville dans le kart à chaque jour.
Il joue au golf, pas de club?
Ah, il joue au golf. Chris, il joue au golf toute la journée au clubhouse. Je sais pas s'il y a un simulateur en dedans, là. Je peux te dire une affaire quand il revient le soir, là. Ça fait pas
son
des grosses discussions.
Son sac, il y a juste des fers neufs.
Et si, moi, il savait pas de quel bord qu'il jouait.
Non, mais, il y a juste des fers neufs.
John de l'Illinois, c'est pas toujours facile quand il revient le soir. Il essaie de parker son kart de reculons, mais là, tu sais, il fait une genre de grand bouc, puis...
Des fois, il est parqué dans le sapin.
Il m'a dit, il y a une fois que j'ai dit, d'après moi, c'est sûr qu'il n'arrête pas avant le palmier. Là. Impossible. Puis finalement, il a comme arrêté peut-être 4 pouces avant le palmier. Crampe ça de reculons. Il s'en va dans... Rendu ça dans le garage. Tout ça pour dire que lui, il a quitté là, il y a deux semaines. C'est là que je voulais en venir. Là. Lui, Illinois, il est parti. Là.
Ouais. Ça me fait rire. Ça, c'est drôle. Ah. Il est bien chaud à chaque soir.
Tu le verrais, John. Là. À toutes les fois, je le vois. Hey, John. Still living the dream, buddy?
Il y a un gros brandy nose. Un brandy nose.
Hey, mais lui, là, Sharon, la madame, là, elle est dans la maison. À chaque jour, Calis, elle fait des bacs lavants, Calis.
Des chicken pot pie.
Ah non, une chance qu'ils sont là avec le kart parce qu'ils ont juste un char. Fait qu'elle, elle peut s'en aller.
Ouais.
Mais le bonhomme, là, à chaque jour, mon gars, c'est chaque jour au clubhouse. Entre octobre et avril, c'est tous les jours au clubhouse. Puis c'est, ah ouais, donc, living the dream en six mois. Fait que lui, c'est un exemple de snowbirds de l'Illinois. Mais c'est ça qu'on, finalement, c'est pour ça qu'on en parlait. D'ailleurs, en partant, il voulait fermer l'eau vu qu'il s'en va pour jusqu'à l'automne prochain. Puis il a fermé notre eau. Mais moi puis ma blonde, on était sur la route. Puis là, ma blonde, elle revient. Elle dit, Chris, on n'a pas d'eau. Je vois. Je connais mon bonhomme. Va donc voir si le côté de la maison, si la chose est ouverte ou est fermée. Comme de fait, à Texas. Elle dit, c'est ça, il avait fermé notre eau. Hey, Chris, John, d'après moi, il...
John est parti à bien chaud à l'aéroport aussi.
Ah non, ah, Chris, oublie ça, là. Fait que, ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tout ça pour dire que... On parlait du terrain à Denis.
C'est Steve Gutchowski. Gutchowski, Juskowski.
Scott
Juskowski. On avait parlé l'année passée. Il a eu sa carte pendant une année, puis...
Mais il a perdu, puis c'est comme... Il a perdu, puis il a re-eu sa carte comme plusieurs fois dans les dernières années.
Ouais,
ça m'intéressait, Nick, j'ai dit... Tu sais comment moi, il y a comme le côté financier de la patente en tant que El Cheapo. Puis là, j'ai dit, Chris, ce gars-là, il a 46 ans. Là. Ça se peut pas, hostie, que depuis... Puis là, il disait que ça faisait quoi? Ça faisait 20-25 ans, je pense, qu'il était tourné pro. Puis là, je veux juste pas aller te dire de niaiserie. Parce que tu sais, au début, là, il jouait sur le Hooters Tour, puis le Canadian Tour, puis... Puis là, tu te dis, t'as une minute, là. Ce gars-là, il vit comment, là? Et es-tu... Tu sais, tu dis, Ciboire, le gars, il fait 20 000 par année depuis 20 ans. Comment qu'il vit? Ça m'intéressait un peu. Puis là, ben, je suis allé voir, comme de fait, sur le site du PGA Tour. J'ai dit, on va aller voir les earnings. Mais Calvaus, Nick, le gars, là...
1,9. C'est quand même...
Ouais, puis ça, c'est sur le PGA. Change le filter, puis va sur Korn Ferry. Juste sur le Korn Ferry, il y a quasiment 1,8 million en carrière. Fait que là, je me mettais à calculer ça. Fait que là, je disais, OK, t'as 1,8. Ben, à taper un nick, là. Le gars, mettons, 1,8 plus 2.
Il a tourné, mettons, il a tourné pas en 1999, le body, là.
Non, je sais. Mais fais-les, mets-les, mettons, à 4 millions, parce que c'est à peu près ça que ça fait. Mets-les à 4 millions divisé par 23 ans. Ça fait combien, ça?
Ça me tente,
c'est par, deux, mettons, 23.
Un peu
c'est
moins 160, 200 000.
174 000 par année. C'est quand même pas pire, là. Puis ces gars-là, Nick, ils payent à peu près pas d'impôts, là. Parce que c'est tous des travailleurs autonomes. Ces gars-là, mettons, ils s'achètent un Trackman. Ils déduisent leurs impôts, là. C'est un outil. Ils ont besoin de ça pour travailler. Je sais, j'ai des chums qui le font, puis ils sont ces mini-tours. Fait qu'eux autres, là, ils déduisent tout le char, le gaz, lui aussi. Fait que le gars paye pas beaucoup d'impôts là-dessus. Puis je sais pas où ce que... tu vois, j'ai pas été voir sa résidence. Il réclamait qu'il jouait où. Résidence Elkhorn, Nebraska. Parce qu'il a été à l'université du Nebraska, puis il dit qu'il joue... Fait que je sais pas, de Nebraska, les impôts, ça ressemble à quoi, là? Mais il y a 4 enfants en plus, là. Fait que j'allais au Galice. Ah, les gars. Mais ça m'a quand même impressionné. Un gars qui roule sa bosse pendant plus de 20 ans, puis quasiment 4 millions de career earnings. Mais good for him. Honnêtement, Nick, puis on va faire le recap dans l'ordre, là, mais...
Oh, c'est Gutchesky.
Gutchesky. C'était quasiment le tournoi qui attirait le plus mon attention en fin de semaine, juste parce que, ben d'abord, c'était pas loin de chez nous. Je connaissais le terrain, puis on s'entend, toi puis moi, que la Zurich classique, là, je comprends que ça a été un groupe de jeunes qu'on aime bien, mais ça reste que c'est un tournoi par équipe un peu louche, là.
Ouais, ça, on reparle. Moi, j'ai la solution, ouais, je trouve ça.
OK, bon, on en parle tantôt. Mais commençons par le commencement, maintenant qu'on a parlé de Steven, de Scott, pardon. C'est toi qui m'as mêlé avec ton Steve tantôt. Parler de Scott, ouais. Gutchesky.
Gutchesky de Nebraska.
Commençons par le commencement, Nick. La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'était jasé. C'était juste avant le Masters.
En préparation du Masters, effectivement.
Exactement. Donc, on s'était parlé un peu de ça, toi puis moi. Petit retour là-dessus.
Rapidement, parce qu'il y a eu peut-être un overdose d'analyse. Là. Vous êtes...
Effectivement, là, mais moi, je fais juste te dire ceci.
Non, arrête. Tu me diras pas juste ceci. Sinon, hein? Le podcast va être court.
Non, mais tu me connais, là. Je mets les attentes basses, là.
OK, vas-y.
Mais moi, je connais un petit clin.
Oh!
Qui a dit que ça se pouvait que John Rahm... Combien de tournois je t'ai dit? 8 à 10?
C'est ça? Tu m'as dit 10. Non, c'est 10. 10.
OK, j'ai dit 10. J'ai 10. Dit que ça se pouvait que John Rahm gagne 10 tournois cette année. Là, à date, il a gagné Century Tournament of Champions, The American Express... Genesis et le Masters. Donc là, il est à 4.
Ouais. Puis il y a un autre petit clin, il est allé sur le podcast de Radio Pirate, puis il a dit checker la corrélation avec le Genesis, puis Riviera, parce qu'il y a une grosse corrélation. Puis le petit clin, il n'a pas pris John Rahm dans son DraftKings. C'est innocent. Mais bon.
Ah, alors.
C'est ça qui est ça. Mais
c'est sûr que ça, c'est pas fort, là. Pas c'est qui ce petit clin-là, là, mais.
Pas fort! C'est moi.
Mais juste te dire, performance dominante. Effectivement, on n'avait pas tendance. Je pense même dans notre podcast, Nick, on n'en avait pas parlé outrageusement. Moi, je me souviens que j'avais dit quelque chose dans les lignes de. Ben là, il était un peu plus cold, mais on s'entend que, je veux dire, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il a juste fini genre T9, puis on s'attend à ce qu'il gagne chaque tournoi. mais c'est sûr que c'est un gars considéré, mais je pense que ça s'est arrêté là, en tout cas du moins de ce que je me rappelle, ce que j'ai dit. Mais je veux dire, c'était sûr que...
La raison, c'est parce que dans le Big Three, on parlait du Defending Champ, puis on avait un narratif sur Rory McIlroy, vas-tu gagner Grand Slam, tout ça. Puis ça, ça a complètement enlevé le focus à John Rahm. Et John Rahm est arrivé avec un petit peu moins de spotlight, un peu moins de pression, puis il est arrivé, puis il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire.
Voilà. Puis, ah, tu vois, je n'ai pas, mais là, je vais aller voir sur mon affaire, parce que j'avais eu quand même un bon DraftKings, parce que moi, je me souviens qu'il y a d'autres petits clans qui avaient parlé aussi de monde, comme, mettons, Morikawa, qui est allé quand même aller chercher un top 10, malgré un week-end très difficile, d'ailleurs, une deuxième ronde de 2 over. C'était qui, donc, l'autre, que je me rappelais plus? Tu m'avais challengé là-dessus, ou on s'était comme dit, ah, pas sûr, nanana, je me rappelle plus c'est qui exactement.
C'était Morikawa.
C'était Morikawa, hein?
Ouais, j'aimais pas beaucoup Morikawa, en fait.
Mais on s'en est
descendu
que
un peu dans mon estime, Colin.
Ouais, mais tu me disais que c'était le côté human, surtout, là, côté un peu primadonna, là. La seule chose que je trouve un peu dommage, puis c'est la même chose qui est arrivée l'année passée aux Players, Nick, c'est que t'as un paquet de gars qui se sont fait prendre à le mauvais côté du drap. Je me rappelle plus exactement, j'avais tweeté là, à une madame là, qui disait n'importe quoi là, sur les réseaux sociaux. Là. Je me rappelle plus trop, il faudrait que je retourne le tweet. Là. Il y a vraiment une vague qui s'est faite un peu harakiri par la météo. Puis ça, ben, c'est tout le temps plate. Parce qu'au final, c'est comme. Je comprends que c'est un jeu de hasard. Sauf que c'est un peu poche. Là. Puis je veux juste aller te le dire parce que je pense que je vais le retrouver bien vite. Ah oui, c'est ça, voilà. Un tweet de Justin Ray. Donc, au Masters, après 36 trous, Nick, le total pour les late early, c'était 144.4. Donc, à peu près le part. Parce que ça fait 72.2. Et les early late, c'était 2.6 shots de plus. Fait que les early late se sont vraiment fait à Rakiri. Là-dedans, puis ça c'est tout le temps un peu plate parce que souvent t'as des gars dans ton DraftKings que tu dis calé, je me suis fait pogner. Tu sais, un gars comme Justin Thomas, c'était tough là, quand il est revenu sur le terrain là, le vendredi, puis le samedi matin. Là.
Justin qui s'est auto-jinxé, là, on s'entend.
Ouais, non, je comprends, là, mais t'as des gars qui ont pas hérité, mettons, de la meilleure vague, puis ça l'a joué un peu les cartes, parce que je pense pas que Justin Thomas jouait si mal que ça. Puis t'as d'autres gars, évidemment, que ça les a affectés différemment aussi, là. Mais c'est juste ça qui est un peu tout le temps, peut-être la seule tache noire au dossier du Masters cette année. Sinon, ben, John Rahm était capable de mettre le jacket aussi de façon plutôt élégante. Donc ça, j'étais un peu déçu. Parce que Scheffler, l'année passée, c'était drôle en tabarnak, pas capable de mettre le bras dans le trou.
De ce que j'ai appris là, sur le podcast Subpar, qui ont eu John Rahm pour la troisième fois depuis leur carrière, mais un excellent podcast. À ce qui paraît, il essaye 3, 4, 5 jackets avant l'entrevue avec le commissionnaire. Sur le commissionnaire, vous commis,
le chairman.
Le chairman, oui, effectivement. Fait que avant ça, il essaye des jackets. Ouais, lui, il te fait, OK. Puis là, après ça, ils disent. Là, quand Scotty va te mettre le jacket, le premier que tu serres la main, c'est le chairman et non Scotty.
Et tu sais pourquoi, hein?
Non, mais c'est juste pour te dire qu'il essaye des jackets avant.
Oui, je sais, mais sais-tu pourquoi qu'ils ont dit...
Non, mais je sens que tu vas me le dire.
OK. Va voir Bubba Watson Green Jacket Ceremony.
OK.
Allez voir ça à la maison, vous m'en reparlerez, vous m'en redonnerez des nouvelles. Puis là, je veux juste pas me tromper. Fait que je veux juste aller voir si c'est disponible. Je pense qu'il y en a un sur YouTube. Puis là, évidemment, j'ai une crise de pause pendant qu'on fait un podcast live. Mais pourquoi qu'il répète ce mot-là, genre « chairman en premier, dalala, blablabla. » Va voir Bubba Watson, Green... Je pense qu'il y a une vidéo sur YouTube. Attends, je veux juste voir si c'est bien celle-là. C'est-tu seul, là? Attends,
sur YouTube?
Lève-toi de bout, là, Baba. Ah oui, c'est celle-là. Oh, oui.
Il sait pas, il sait pas où donner la main.
Oh, il passe à côté du chairman. Le chairman, est-ce que c'est awkward? Puis là, Charles, puis là, Schwartzel, il met le jacket sur le dos. Allez voir ça à la maison, vous allez comprendre pourquoi que d'après moi, après cette affaire-là, ils ont dit « Hey, là, tabarnak. Est-ce que crise de poignée de main awkward qui me manque, je le manque. » Oups, il se flatte le cheveu. Est-ce-t-il. Fait que ça, c'est très, très drôle. Là. Fait
que, donc, c'est le 2014 c'est... et non le 2012.
C'est-tu le 2000... Que, l'année que Charles Schwartzel, il a gagné en quelle année?
Oh, ça, c'est une bonne question.
Charles Schwartzel, attends un peu, moi, de dire ça. Charles Schwartzel, il a gagné en 2011, donc non, c'est celui de 2012.
Ah, OK.
Mais si tu tapes juste dans Google, là, Bubba Watson Masters Ceremony, puis il y a une vidéo qui s'appelle Bubba Watson Green Jacket Ceremony sur YouTube. Va voir ça, tu vas rire en sacrament. Tu veux que je te l'envoie ou...
Non, ben je suis un peu comme mes collègues de travail. J'ai un peu de la misère avec les internets et ça, là.
OK, ouais, ouais. Mais tu veux que je te l'envoie ou...
Non, c'est correct, ouais.
C'est une vidéo qui dure 4 minutes 1 seconde. Puis mettons, avancez-le jusqu'à genre 3 minutes 30 secondes. Puis là, regardez, okay, Baba qui se lève avec le chairman. Puis là, whoop, 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 whoop.
Je l'ai, là.
OK, ouvre ça à 3 minutes 30.
Ouais. Oh, oh!
On va où en premier?
Là, tu vois, il n'est pas supposé te donner le poignet de main. Il faut qu'il mette le jacket en premier. Puis ensuite, de là, c'est le chairman.
Ce qui était awkward aussi, c'est que Scottie Scheffler, ça n'a pas pris de temps qu'il a flyé de là une fois qu'il a mis le jacket. Ça, je trouvais ça un peu louche. Là. Mais en tout cas.
Ouais, mais Sam Bennett aussi, ça n'a pas, pas été long.
Hey, il est parti, il a flyé, là. Hey! Bye bye! Là, tu te dis, ouais, Chris, ils viennent de partir à la course.
Peut-être qu'il y a ça, c'est une belle, histoire. En passant, c'est une très belle histoire. C'est un beau narratif. C'était parfait pour le broadcast. Un gars qui joue 68-68. Après ça, saute au jinx en disant que c'est un terrain facile. Fini avec un 76-74. On parlait de Gordon Sargent comme étant peut-être l'amateur à watcher. Mais finalement, c'est le US Amateur Defending Champ Sam Bennett qui a été assez incroyable avec ses 2,68. Un gars qui, on dirait, qui pelte complètement avec son épaule droite. Un peu comme Joachim Niemann avec son swing, va vraiment dipper. C'est vraiment une contorsion, hein, dipper vraiment comme Joachim Niemann. Je sais pas combien de temps tu peux swinguer de même. Je sais pas si c'est dur physiquement, mais un swing est quand même assez agressif là.
Je pense que le danger pour lui, c'est surtout que c'est ça. Là. Il est allé jouer avec les dieux du golf. Tu sais, si t'étais Augusta, là, regarde. Prends ça relax là, t'allais dire que il y a des terrains plus durs que ça. Ah oui, c'est boire. Tu t'arranges, tu te fais manger tes bas solides, toi. La dernière fois qu'il y a un gars qui a dit ça, je pense qu'il n'a pas joué en bas du par depuis ce temps-là.
Même si c'est... Il y a Chris, 2,74, le body. Même si c'est vrai qu'il sent qu'il y a des terrains... Puis on s'entend, c'était mouillé, là, c'est soft, c'est des conditions assez très faciles les deux premières journées. Mais même si c'est vrai dans ta tête, dis-le pas.
Non, dis-le pas. Non. Ben non. Ben non, tu peux pas, Nick. Tu sais, Bryson, il a battu Bernard Langer par un coup. Là.
Rookie mistake. Ben, oui, effectivement.
Tu peux pas, ça va pas bien.
Égalité avec Mike Weir.
Oui, c'est ça. Là, t'sais. Mais effectivement, tout qu'un tournoi, encore une fois, Nick, c'est... C'est mon tournoi préféré. C'est incroyable. Incroyable. Le site web, l'app, le suivi, la tradition, le veston vert, le suspense, le gazon vert, c'est du tapis, les flancs. C'est juste...
C'est les arbres qui déracinent.
Ouais, ça, c'était spécial. Hein?
Très spécial.
Ouais, ça, c'est un peu spécial. Mmh. Mais je peux pas dire qu'ils l'ont cleané de là. Il y a des arbres, ça fait 3 semaines à Montréal, qui sont dans la rue sur la piste cyclable et ils sont pas encore tossés de là pour la tempête de verglas. Masters, ça n'a pas niaisé. Il y avait 6 gars avec des sièges chaînes 3 minutes après qu'il soit tombé.
Ce sera pas long. Là. Valérie, elle s'en va à... Valérie s'en va à Londres. Elle va t'arranger ça.
Va lâcher des sièges chaînes?
Non, elle s'en va à Londres. Là. Elle va aller voir comment ça se fait.
OK. Je comprends. Autre performance à souligner, Nick, une autre recrue.
Phil Mickelson, oui.
Ben, ça, je voulais t'en parler après parce que c'était mon dernier point, là. Okay. Mais non, mais Sahith Tigala qui va chercher un top 10 à son premier Masters avec une ronde finale de 67 en plus. Lui, il n'a pas gagné encore, là, mais...
Ça s'en vient. Il s'était qualifié avec un top 30 FedEx parce qu'il n'avait pas gagné. Puis d'après moi, il était sûrement proche de top 50, mais il avait fait le Tour Championship l'année passée sur... Je pense qu'il était pas mal Bubble Boy ou sinon 29e. Donc, il s'est qualifié comme ça. Puis là, il vient de se requalifier pour l'année prochaine avec un top 12. Donc, il va être à watcher l'année prochaine parce que on s'entend, man. C'est check les gars. À part Patrick Reed, c'est du monde qui ont tout un bon track record au Masters. John Rahm avait un bon track. Il était backdoor, mais il avait un bon track record. Phil Mickelson avait un bon track. Koepka avait quand même un bon track record jusqu'à temps qu'il se blesse. Speed, Reed l'a gagné. Henley, out of fucking nowhere. Cameron Young, c'est un gars qui est performé à Riviera. Ouais. Hovland, que même s'il n'est pas capable de chipper pour sa vie, a quand même un bon track record. Puis après ça, Scotty Scheffler qui round up Fitzpatrick, Schauffele, tous des bons track records. Donc, Tigala va être à watcher l'année prochaine au Masters. Ça, c'est sûr, certain.
C'est clair. Puis tu l'as mentionné, Nick, mon dernier point et non le moindre. Phil Mickelson. 52 ou 53, Phil?
52.
52 ans, Phil Mickelson, qui joue en compagnie de Jordan Spieth le dimanche au Masters. Finit deuxième. Puis même, m'a t'avoué, Nick, on s'entend, là, John Rahm, il a mis ça au rencard assez vite. Là, mais il y avait un bout. Phil était pas mal leader au chalet, puis il était pas tant en arrière de ça. Là. Il était pas tant en arrière. Tu sais, je veux dire, Rahm s'est claqué des birdies au 13 et au 14. Parce que si on se fie, John Rahm, après 9 trous, Phil était 2 en arrière. Fait que tu dis là, back 9 au Masters, les conditions étaient super belles, mais il peut quand même arriver un paquet d'affaires. Tu peux te mettre à l'eau, tu le sais, on le sait, au 12, le 6. Fait que 2 shots, ça se serait pu. Mais Phil qui se claque un 65 en ronde finale.
Mais deuxième. Phil, excuse-moi, Marco, ouais. Mais c'est Phil, le problème, c'est pas en ronde numéro 4, c'est en ronde numéro 3. Ouais. À ronde numéro 3, je vous l'ai texté en plus. Phil enters the chat. Puis dès que j'ai écrit ça, j'allais jinxer. J'ai Masters jinxeux. Mais au 7, 8, 10 et 11, bogey, 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 bogey.
Ah oui, donc, il a fait 4 bogey en 5 trous quand tu l'as collé.
Exactement. Ouais, Master jinxeux. Mais déjà là, si tu fais mais juste des parts là, tu fais. C'est sûr et certain, avec des si, on s'en va à Paris. Mais c'est vraiment là que là, il aurait pu contender pour le dimanche. Ça aurait été différent le lendemain, là, c'est sûr et certain. Peut-être un petit peu moins agressif sur les trous. Mais c'est vraiment ce stretch-là, 7, 8, 10 et 11 de la troisième ronde qui l'a comme un peu sorti.
Non, c'est clair. Puis écoute, c'était quand même son 30e Masters, Nick, là. Quelque chose, là. 30 Masters. C'est assez spécial. 3 victoires là-dessus. 6 tournois majeurs, mais il y a 15 top 10. Donc, en 30 Masters, il y a 15 top 10 au Masters. Il y a, je pense, un. Ben là, c'était son deuxième runner-up. Donc, sa deuxième place. Et il y avait 5 troisième places. Donc, c'est assez... Honnêtement, C'est probablement un, Nick, dans l'histoire. Puis là, en plus, Phil, il est exempté pour un paquet de tournois majeurs pendant encore longtemps à cause de sa victoire au PGA. Puis évidemment, au Masters, il est exempté à vie. Là. Mais ça va peut-être être un à checker. Tu sais, genre dans 15 ans, il va avoir 60 et... Ou mettons dans... Peut-être pas dans 15 ans, mais mettons dans 10 ans, il va avoir 62. Un peu comme le Fred Couples d'aujourd'hui, mettons. Là, mais je pense en meilleur. Je pense que Phil, dans, mettons, mon DraftKings du Masters 2033, ça va peut-être être un bon choix.
Mm-hmm.
Tu continues, me suis-tu? Parce que, clairement, il se tient encore en forme. C'est la... En tout cas, visiblement, la meilleure forme qui a été de sa vie. Puis même de son propre aveu. Puis je veux dire, le reste de sa game, s'il est là, c'est Augusta. Et il est toujours quand même très solide à Augusta. Tu sais, ça pourrait peut-être être le genre de Fred Couples. Fred qui a quand même ouvert avec un under, mais après ça, je pense que c'était fatigué. Mais c'est ça. Fait que non, super belle histoire. Phil Mickelson, gars de Liv aussi, veut pas, on va le dire. Là. Les gars de Liv ont très bien performé. Ceux qui disent qu'il n'allait pas bien performer, c'est des astis d'aveugles de anti-Liv. Là. On s'entend, là. Je veux dire.
Ça, de un, de deux, statistiquement, à un moment donné, si tu dis qu'il va pas bien performer, c'est parce qu'on s'entend qu'il y avait quand même 18 gars de Liv, là. Tu sais, statistiquement, c'est sûr qu'il allait en avoir au moins 3 ou 4 qui allaient qui le top 10. Là.
Ouais, puis je vais même en rajouter ce que tu as dit. Je pense que c'est Noda Begay qui disait ça. Il dit le Masters, là, enlève tous les anciens champions qui sont un peu à bout d'âge, enlève les amateurs, puis enlève tous ceux qui sont comme pas vraiment une contention. Il te reste probablement le tiers du field. Là.
Exact.
Puis, tu sais, à part quelques gros noms, puis là, en plus, tu as eu des gars qui ont withdraw. Mais, tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Quand tu pars le tournoi, il y en avait combien des gars au total? Il y avait-tu 76 joueurs? C'est-tu ça à peu près?
Je sais pas, je compterai pas, par exemple.
On s'entend là, que tu enlèves Sandy Lyle, Larry Mize, José María Olafabo. Tu enlèves une coupe d'amateurs, à part là, tu as eu la belle performance, mais sinon les amateurs habituellement ne font pas à cote. T'enlèves une coupe de vieux bonhommes aussi au travers. VJ, ça commence à être tough un peu. Là, pour. Fait que tu sais, t'enlèves tous ces gars-là.
T'enlèves 4 withdraw.
Ouais, là, dans ce cas-ci, t'enlèves 4 withdraw. Mais tu sais, t'enlèves tous ces gars-là. Oups, un, deux gros noms font pas à cote. Fait que finalement, tous les autres, ils sont là. Là fait que, tu sais, je veux dire, après ça, sur le week-end, il peut se passer plein d'affaires. T'as des gars, tu sais, Keith Mitchell qui... Il avait un début de tournoi popé, puis il se claque un 77, 79, finit dernier. Là, c'est pas yable. Fait que, du coup. Mais tout ça, bref, quel tournoi? C'est juste. Mon tournoi
préféré. C'est-tu juste. De ce que je vois, c'est-tu juste DeChambeau puis Watson qui ont pas fait la cote pour Liv? Mais tu sais, si tu regardes ça.
Sergio aussi, je pense.
Ah, Sergio, ok. Si tu regardes ça dans la PGA, d'important, t'as Svensson, Noren, ah, il y a Kokrak aussi, Connors, ça a bien été, les Canadiens.
Ouais. J'avais Svensson dans mon DraftKings.
Oh.
Ben, Zalatoris okay, a withdraw, ouais. Mais c'est un gros nom, là.
C'est Willett, Tiger, Champ, Kisner, McElroy, Thomas, Ogie. Puis Molinari. Fait que si tu regardes le ratio, tu sais. Anyway, je veux dire, de dire qu'il n'y a pas aucun. Y a les livres, les gars de livres, c'était impossible que 18 gars de livres allaient manquer la cote. Puis c'était le fun.
De toute façon,
c'est pas tu l'as
si
vu aussi.
Au golf,
mais tu l'as vu à quel point c'est une patente de médias. Tu l'as vu à quel point non, ouais. John puis Brooks. Puis vous l'écouterez là, si vous parlez un peu anglais. Là. Mais l'entrevue avec de John Ram sur le Subpar Podcast parle de sa relation avec ces deux gars d'Arizona State. Ouais. Ces deux gars qui sont proches. Puis ils ont une excellente relation, les deux, même Il dit, ça change rien, là, je m'en calisse. Je le vois moins, là, mais je l'apprécie toujours autant. C'est,
ben oui.
Ça n'a rien changé. Ça a brisé quelques relations. Rory aime ça faire un peu sa vedette. Puis à quel point... Mais tu sais, Rory a joué avec Brooks. Fait que, ronde préparatoire, il était avec Brooks Koepka. Fait que, tu sais, c'est beaucoup une patente de médias, puis ça vend des copies. Le méchant Saudi Arabia contre la PGA qui a toujours été là, puis c'est de l'establishment, puis blablabla. C'est du focaillage de médias, puis on l'a vu. Le Masters était plus gros que tout cette fin de semaine-là. J'allais dire en fin de semaine, mais ça fait 3 fins de semaine de ça. Puis on l'a vu. Et voilà. C'est tout.
Ouais, puis on s'entend, Nick, là. On y a pas pensé sur le coup, là. Mais Rory McIlroy dans Full Swing qui dit à Phil, fuck you, Phil, nana. On aurait dû penser qu'à Augusta avec les dieux du golf, c'est sûr que ça allait mal finir. Là.
C'était exact. Sûr. Ouais.
On a juste pas pensé aux dieux du golf à Augusta. Est-ce que tu penses qu'il va arriver? Phil, deuxième. Toi, tu manques la cote. Tiens, c'est ça. Va-t'en chez vous.
Ting, bang. Tiens. T'aimes ça, Ovechkin? T'es
toi! T'as frappé dans la ligne nationale, boum! C'est la barouette qu'on est dans le match.
T'es toi!
S'en est suivi. On avait fini le Masters.
Ouais, à part de ça. S'en est suivi. Un autre elevated event. Oui. Assez intéressant. Yes, sir, Monner.
Oh oui, RBC Heritage. À quoi? C'est même pas 100 miles, je pense, au nord de. Ou au sud? Au sud. Au sud de Augusta. Augusta,
Sud-Est.
Georgia, Hilton Head, ouais, c'est ça. Mais non, je pense que c'est au nord. Parce que Augusta, c'est comme sa frontière. On va aller voir, on va pas dire.
Mais t'as pas le choix. Ouais, non, c'est surtout pas. Surtout pas.
On peut pas dire des christiniaiseries. On fait un podcast, là, c'est sérieux. Là. Ouais, c'est ça. C'est au
Sud-Est.
C'est ça. C'est où Hilton Head? Ah oui, c'est ici. C'est ça. Oui. Il est où, Augusta?
Il dit
quoi, hein? Oui, c'est ça, au sud-est, voilà. Mais c'est pas loin, par exemple. Ça se fait bien en char. Donc, au sud-est de là, à Hilton Head, pour le RBC Heritage. Un autre tournoi qui est complètement différent du Masters, mais qui est quand même vraiment le fun, parce que tu l'as dit, Nick, c'est un elevated event, donc c'est un peu drôle de voir que les... Je comprends que c'est pas un full field, là. Mais y a la purse pour le RBC Heritage est plus grosse que le Masters. Fait que ça, je trouve un peu spécial. Tu sais, Fitzpatrick a fait plus d'argent que John Ram. Là. Un peu
mais t'as aussi un jacket.
C'est vrai, mais il est carotté, lui. Mais on a eu le droit, Nick, à un excellent tournoi de golf. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter un peu. Moi, j'ai écouté surtout la ronde finale. Fitzpatrick qui gagne devant Speed en prolongation. Speed qui défendait son titre. Ça a pris quelques trous. Puis Matt Fitzpatrick qui se claque un fer neuf à genre 2 pouces. quel coup de golf pareil sur ce trou-là. Tu dis sacrement, hein, les gars. Ah ouais, c'est agressif à l'os. Mais encore une fois, Nick, on avait tout qu'un leaderboard avec le gars des outils jaunes qui était là, qui a fini troisième. Shoffley, son meilleur chum, qui était là. Tigala qui s'y va encore, on parlait de lui tantôt, se claque un T5. Puis là, ben, t'avais un paquet d'autres noms, gros et moins gros, qui étaient là. Tu sais, Scottie Scheffler était pas trop loin. Ricky qui a eu un autre bon tournoi. John Rahm qui venait quand même de gagner le Masters, qui se claque un autre top 15, là. Fait que t'avais un paquet de gros noms. Y a-tu des gros noms qui avaient manqué la cote? Il y en avait quelques-uns. Tom Kim, entre autres, ça avait pas très bien été. Mais somme toute, là, excellent tournoi. Moi, c'est une place que je pense qu'on peut le jouer. Je sais que c'est très exclusif, mais je pense qu'il y a une façon, là, si tu bookes là-bas, ou en tout cas, moi, c'est sûr que c'est sur mon radar. Là, le terrain est très étroit, mais écoute, c'est tellement
une belle
track de golf.
Ouais, tu peux le jouer. On a appris que. Puis ça a été comme le catnip, là, genre la chose référentiel du broadcast que la famille Fitzpatrick allait souvent en vacances jouer au golf. Et où allaient-ils? Même s'ils habitaient en Angleterre, ils traversaient la flaque pour aller jouer Hilton Head quasiment à chaque année.
Ouais, mais ça compte pas, là, parce que lui, il s'appelle Matt Fitzpatrick. Mais non, mais moi, si je suis un gagnant du US Open, je suis pas mal sûr que je peux aller jouer n'importe où.
Non, mais quand il était jeune. Non, quand il était jeune. Quand il avait 11-12 ans, la famille Fitzpatrick qui jouait au golf en famille traversait la flaque, puis c'était à chaque année. Il disait, bon, vas-tu... Non, on retourne à Hilton Head. Fait que Matt Fitzpatrick était très, 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 très familier avec Hilton Head Golf Course.
Ah, d'accord. C'est là.
Et voilà.
Je
ça, c'est les patentes qu'on ne sait pas trop. Puis quand... Parce que Matt, j'ai... Tu sais, c'est un tournoi après le Masters, donc le field est normalement faible, mais depuis que c'est un Elevated Event, ben là, ça a tout changé.
Oui, effectivement. Puis ça change beaucoup les autres tournois aussi. Parce que justement, les tournois qui sont pas Elevated, c'est un peu plus médiocre. Mais bref, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le RBC Heritage. Nick, je sais pas si tu avais d'autres choses de ton côté. L'autre tournoi, ben, on venait d'en parler, puis je sais que t'as une suggestion pour rendre ce tournoi-là intéressant. Parce que là, t'avais la Zurich classique par équipe, un peu spéciale. T'sais, là, on a le Mexico Open. Fait que là, t'es un peu boboche. Ouais. Après ça, on a le Wells Fargo, qui est habituellement... Est-ce que c'est un Elevated Event? Oui, c'est un Elevated Event, 20 millions de purses. Donc au moins on le sait, l'année passée d'ailleurs c'était Max Homa, je pense, qui avait gagné. Donc on sait que c'est un... Il a gagné deux fois Max Homa, je pense. Mais on sait que c'est un tournoi qui est très très couru à chaque année. Mais tu sais, on a un genre de stretch là d'ici au PGA Championship. Un peu plus, c'est ça. Tu sais, là, Zurich, Mexico Open. Là, whoop, Wells Fargo, après ça, Byron Nelson, qui est aussi un tournoi quand même populaire. Mais il faut que les gars choisissent, là, maintenant, le PGA est du suite après. Là. Fait que là, tu vas-tu jouer trois semaines
tout de suite
en
après, ouais.
C'est ça qui est un peu... Puis Charles Schwab, c'est assez couru aussi, mais là, c'est pas des... Autant Byron Nelson, même si c'est quand même un tournoi que les gars jouent, ben là, c'est pas un Elevated Event. Fait que les gars, il faut qu'ils choisissent le cédule avec les majeurs. Là, fait que c'est un peu ça. Fait que, écoute, Zurich classique, Nick, je t'avoue, j'ai zéro suivi. Je veux dire, j'ai suivi les highlights, là, mais j'ai pas écouté une seule seconde. J'ai écouté plus de golf du Corn Ferry Tour en fin de semaine que j'ai écouté de golf du PGA.
T'as-tu écouté un peu de Live Tour?
Ben, encore une fois, j'ai écouté des highlights, mais c'est parce que c'est un peu tard. Ou de bonne heure, c'est selon. Là. Mais c'est parce que là, je veux bien. Puis écoute, chapeau à Live, ça avait l'air d'être probablement un de leurs meilleurs événements depuis le début, là. Mais c'est parce que en ce moment, en Australie, il est 11h10 le matin. Fait que là, à quelle heure fallait que je me lève pour écouter ça, là, un moment donné, ou que je me couche? Mais...
Ouais, tu peux l'écouter, non, mais en replay, mais c'est... Tu sais, d'un autre côté...
Hey, bonhomme, là. Écoute pas ça en replay, moi, là.
Non, je sais
on
pas.
On va enregistrer des hymnes de baseball, on va écouter ça demain. Eh oui, je vais s'arrêter, là.
Non, mais d'un autre côté, il faut...
J'ai sur mon téléphone.
Faut rendre à César ce qui est à César.
Ouais, ouais.
Ça avait l'air d'un événement, un franc succès. Comme je l'ai dit dans notre chat de golf, ça ne pouvait que être un succès. Il y a peu de tournois en Australie. Il y a l'Australian Championship et tout ça, mais qui va chercher quelques gros joueurs australiens qui vont aller jouer ce tournoi-là. Mais il y a peu de tournois en Australie à cause de quoi? Ben, le plus gros marché, c'est les États-Unis. Puis, question broadcasting, tu viens de le dire, c'est pas très, très, très le fun. Il y a eu la President Cup en 2019 qui a été un gros succès. Un gros succès. Fait que le golf qui revient avec les gros noms à Adélaïde en Australie, avec une équipe complètement australienne, des gros noms comme Brooks Koepka, Dustin Johnson, et c'est Taylor Gooch qui a joué 2,62, qui a gagné le championnat malgré qu'il a joué un 73 à la dernière ronde, avec quand même, il était moins 20 après la deuxième ronde. Donc, un gros, gros succès. D'après moi, ça va être le quote-unquote Waste Management Open pour la LIV Golf. Ça a été un succès monstre. J'écoutais la Zurich, on en parle dans quelques secondes, mais j'écoutais les deux. Puis ça se passait en fin de semaine à Adelaide, en Australie. On l'a vu avec le ace de Chase Koepka. C'était le party complètement total. T'avais le comédien Bert Kreischer qui avait plus de chandail. C'était un assis de party. Fait que content de voir que ça a été un franc succès parce que LIV va avoir besoin de ça pour survivre. Pour donner une raison de survivre.
Ben, c'est clair. Puis effectivement, tu l'as dit, Nick, mais. Ça avait assurément de l'air d'un de leurs meilleurs tournois depuis qu'il existe. Puis, tant mieux si, tu sais, je veux dire, on voit vraiment cette tangente-là que ça prend, Nick, où LIV s'identifie plus comme un tour global versus le PGA qui semble un peu, pas se refermer sur lui-même, mais... Tu sais, l'entente avec le Euro Tour, c'est un peu spécial. Tu sais, c'est un peu genre, ouais, vous autres, fidez-nous des gars, là, puis on va vous donner une coupe d'affaires, là, des casquettes, des gilets, là.
C'est ce qui se Mais quitte, quitte à. Tu sais, là, je pense qu'il y a 16 événements, puis on en a déjà parlé. Il y en a un, sur les ondes de Radio Pirate qui aime ça nous traiter de woke, mais je pense qu'il écoute pas bien nos podcasts. Mais
il écoute pas de podcast partout, je pense, honnêtement. Là.
Quitte à avoir une ligue, je pense que les revenus, mettons, d'une ligue de 10 tournois durant l'année, tu payes des gros cachets, puis tu as un combiné entre les deux, puis tu crées tes équipes. On en a parlé le 2-3 semaines. Tu sais, tu crées quelques... Tu as toutes les gros noms. Tu les as toutes. Puis tu payes des gros cachets. Là. Tu vas vendre des gros, tu sais, des bibles. Là, ça va marcher dans des timings, des bons timings. Tu travailles avec les PGA. La PGA, tu te dis, regarde, on va enlever 13-14 événements, mais tel revenu va compenser pour ça, pour aller... Tu sais, il y a un mix, il y a une négociation qui se peut se faire pour... vraiment amener les deux tours à un autre niveau. Puis on l'a vu au Masters. Le Masters n'est pas le Masters sans les gars de LIV. T'as besoin de ça. Puis je pense que LIV peut pas aller chercher un autre niveau sans les gars de la PGA. Là, c'était le fun qu'est-ce qu'on avait en fin de semaine. Mais si tu veux que LIV aille à un autre niveau, d'un, il faut que tu changes de... des broadcasters, c'est encore la barre. Mais de deux, il va falloir que tu ailles chercher d'autres joueurs. Puis comment tu peux faire ça? C'est vraiment en cohésion avec la PGA Tour. D'assembler ça. Puis comme je t'ai dit, tu fais un Jupe Live Club où ben, tu ramènes là, les gars qui sont au Barbade en fin de semaine. T'as un team Justin Thomas, Smiley Kaufman qui revient de sa retraite où tu après ça, Ricky Fowler puis Jordan Spieth, de cette équipe-là, pendant 10 semaines, à travers le monde, pendant des pochettes où il n'y a pas de tournoi, s'en vont jouer contre les clubs australiens, le club anglais, tel club, le club de Texas avec Scottie Scheffler puis Sam Burns, contre le club de la Californie avec Morikawa puis avec Max Homa. Puis là, t'as vraiment là, quelque chose de gros. Puis là, ces rivalités-là peuvent complètement se transposer sur la PGA. Tu crées cet événement-là, ben, tu sais, bon, on en a parlé 6000 fois, là, mais tu le vois vraiment qu'est-ce qui pourrait se développer de ces deux tours-là.
Non, c'est clair. Puis, tu sais, je pense qu'au final, là, va falloir que ça se rende là, mais je suis pas sûr que les je suis pas sûr que les personnes en place sont les bonnes. Autant du côté de Jay Monahan, puis oui, j'ai aimé la conférence de presse de Greg Norman, Nick, mais je suis obligé de te dire que je sais pas si c'est vraiment ça qu'il parle en privé, par contre. Je pense qu'il y a pas... Je pense que d'un certain côté, Nick, il n'y a pas le choix de prendre ce côté-là parce que déjà que, on l'a dit, là, toute la gang de médias, de masse, de marde, de gang de démocrates, ils ont déjà tous les médias contre eux autres. S'il prend le stance du gars qui est un peu à la... Si Greg Norman avait le même stance que Jay Monahan, ça serait tough en tabarouette. Là. Tu comprends? C'est un peu ça que je veux dire finalement, là. Fait que je pense qu'il n'y a pas le choix de dire ça. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté? Tu sais, veux pas, faut quand même admettre que Greg Norman a toujours eu une genre de vendetta envers le PGA, tu sais, WGC au départ. Pis... Fait que tant mieux si c'est ça qui se dit en coulisses aussi. Mais tu sais, je sais pas si c'est les bonnes personnes qui sont en place. Bon, puis autant Jay Monahan, Low Energy Jay, que lui de son bord, il veut rien savoir, là, comme un épais. Là. Mais tout ça pour dire que Nick. On joue encore en fin de semaine, donc on se déplace à Singapour pour Live Golf. Donc un autre Live Golf
ouais,
en fin
de
semaine.
Ah, oh, mais attends, là. Ah, ok, un autre Live Golf. Ok, excuse. Je pensais que tu changeais de
sujet. Non, c'est juste pour dire que là, tu sais, avec la cédule, vu qu'ils ont plus d'événements, ben là, ils ont un 2 en 2. Donc on s'en va à Singapour, au Resorts World Sentosa. D'ailleurs, qui ont déjà eu le Singapore Open, Nick. Singapore Open, il y a quand même des gros noms qui ont gagné ça, là. 2020, c'est Matt Kuchar avec Justin Rose comme runner-up. Sergio a déjà gagné ce tournoi-là. Tom Kim, l'année passée, avait fini runner-up. Jordan Spieth avait déjà joué ce tournoi-là. Adam Scott a déjà gagné. Adam Scott a gagné comme même trois fois, je pense, ce tournoi-là. Fait que t'avais quand même des gros noms qui allaient jouer ce tournoi-là sur le Asian ou le Japanese Tour, souvent en préparation du Open Championship. Mais tout ça pour dire que c'était à ce terrain-là, Sentosa. Donc il y a de l'air, écoute, je regardais les photos, ça va être le fun. Fait que je vais suivre ça en fin de semaine, c'est sûr. Je sais pas, l'heure doit être moins pire, là, vu qu'il se rapproche quand même, ne serait-ce qu'un peu. Là. Singapore time, qui est l'heure là, il est 9h19, fait que c'est un 12h pile, fait que c'est sûr.
C'est un 12,
ça,
ouais.
Ça sera pas évident, là, tu sais. Mais en tout cas, on va essayer de suivre ça pareil un peu. Tu sais que tu t'en allais tantôt, excuse, tu changes.
Ouais, mais non, mais on avait parlé de la Zurich classique en fin de semaine, qui était comme ci, comme ça. Tu avais des équipes un peu louches, je te dirais. Là.
Oui.
T'avais John Daly qui jouait avec David Duval. Oui. D'après moi, on aurait-tu battu 83? D'après moi, on les aurait battus.
Non, mais sérieux, les gars. Là. T'sais, ça, c'est comme Davis Love qui joue la RBC. Là, ou non, puis, c'était pas la RBC. C'était quoi qui a joué dans Davis Love?
Oui, RBC. C'est le tournoi d'avant.
Non, mais le tournoi d'avant, c'était le Masters, pense, mais juste avant le Masters.
Il a joué le Valero.
Oui, c'est ça. Ouais. Come on.
Ouais. Mais t'avais aussi un autre club qui était un peu louche. T'avais Michael Thompson, mais qui jouait avec Paresh Amin.
Qui?
Qui? On se demande comment il a été capable d'avoir un start. Anyway, fait que je pense que ce tournoi-là a été bon sur le back nine encore le dimanche. Je pense que il y a un gros finish. Les Canadiens ont poussé. Ils avaient un putt pour se rendre à moins 29, mais ça s'est gagné à moins 30. Deux, je dirais pas recrues, mais deux gars qui commencent à rouler leur bosse sur le PGA Tour. On parle souvent de Davis Riley et de Nick Hardy. Nick Hardy qui avait passé par les Monday Q, puis là, avait développé sa carte, eu sa carte à la fin de l'année, puis là, sa première victoire. Fully exempt jusqu'en 2025, ces deux-là. Donc, c'est une grosse victoire. 400 FedEx points. Donc, t'en as un, Nick Hardy est rendu 39e et Davis Riley 33e. Donc, c'est important pour la FedEx Cup, puis leur statut. Mais comment, moi, je pense, ce tournoi-là, De un, comment le rendre meilleur? De un, je pense que le timing est mauvais. Juste après le RBC Heritage qui est elevated, le timing est mauvais. De deux, il faudrait que ce soit un elevated event. Puis de trois, le format. Moi, je pense que tu peux commencer ça soit que tu fais un double elimination avec 32 équipes, tu commences le jeudi, tu gagnes ou tu perds selon ton ranking. Un joue contre 32 selon vos rankings FedEx ou vos World Golf Rankings. Un joue contre 32, tu gagnes, tu t'en vas dans la bracket gagnant. Tu perds, tu t'en vas dans la bracket. Le jeudi, tu joues 2-18, match, tout est match play. Soit best ball ou alternate, peu importe. Fait que là, tu as deux matchs le jeudi. Après ça, à la fin du jeudi, il reste 16 équipes. Tu joues le 16 équipes le vendredi, 8 équipes le samedi, 4 équipes le samedi. Tu joues ta finale 36 trous. Mano à mano. Not mano à mano, mais un contre un. Un peu comme le US Amateur. Puis là, tu as ton tournoi. Fait que là, tu pourras avoir des équipes genre John Ram, puis un de ses meilleurs amis, c'est qui, je sais pas.
José mais... Maria Ola Fable.
Non, mais là, faudrait que c'est tu... Ouais.
Ben là.
Ce serait le top 50 de mon... top 50, ça marcherait pas parce que t'as 32 équipes, pas deux joueurs.
Ah oui,
mais faut nécessairement que ce soit, mettons, dans le top 100 mondial. Faut que tu crées des
il
équipes.
Il pourrait jouer
ça.
Avec Joaquin Niemann. Ah non, il est sur Live.
Ouais, c'est vrai. Mais anyway, tu vois... Le...
Ça prendrait fait... un... Ouais, ouais, je... mais tu vois, ça peut pas être pire que, ça peut pas être pire que celle-là. Fait que moi, j'y donnerais... Je l'aime, ton idée.
Merci.
Je donnerais un coup, là. T'as écrit ça.
Mais là, t'aurais... Tu sais, là, t'aurais les... Genre, 30, 60, 64 des top 100 mondiales. C'est du match play. Puis match play, c'est de la pression. Puis là, à fin, man, c'est 36 trous d'alternate shot. Tu peux te faire, mettons, un alternate shot, puis après ça, un 18 best ball, mais tout le temps un match play. Ça, tu sais, tu pourrais jouer avec ça, puis je pense qu'il y a du potentiel. J'attends mon appel de Jay Moran.
Hey, je l'ai le partner à John Ram.
Oh, qui dit?
Ton chum. Adrian Otagi.
Ouais, mais il n'est pas dans le top 100, lui.
94e.
Ah oui. Oh yes.
Ou sinon, ça pourrait aussi être. Parce que ça prend des gars qui parlent paniche, là. Tu sais, je veux dire, faut que ça parle. Sinon, il y a Adri Arnos, 83e au monde.
Ok.
J'ai trouvé qui vient de l'Espagne. Sinon, si ça peut juste parler espagnol. Mais je pense qu'Argentine. Argentine, ça parle-tu espagnol ou ça parle portugais?
Espagnol.
Sinon, il pourrait jouer avec Emiliano Grillo. Serait bon pour... Ce serait pas pire, ça, John Ram avec Grillo.
Mais je pense que c'est un gars de... Après, il se trouvait un gars de Scottsdale, là. Un gars d'Arizona.
Ouais. Un genre de...
Paul Casey.
Ouais, il est sur Live.
Pat Perez.
Il est sur Live aussi.
Phil Mickelson.
Ouais, non, sur Live. Ouais, on est mal barré, hein, je veux dire, une affaire. C'est vrai que... Ouais. Non, il pourrait jouer peut-être avec Tony Finau. Ce serait pas pire, ça. Mais, ouais, ouais, bref. Ben, ah, à moins qu'il joue... Tom Kim, il joue pas out of Arizona State, lui? Ou pas Arizona State, excuse, mais il joue... Sa place de résidence, c'est pas Arizona, on allait dire ça. Ah non, c'est
non,
Dallas,
mais...
Texas.
Tom joue avec Siwoo, là. C'est canné, ça.
Avec Siwoo ou avec Sanjay?
Sanjay a joué avec Keith Mitchell.
Ouais, mais justement, tu voyais bien que c'était pas le premier choix, là.
Oui.
Ça faisait la rigolette, là, mais je suis pas sûr que ça se jasait tant que ça, là.
Ben oui. Non, c'est des best buddies, là, ça.
Ah oui? Pour de vrai?
Oui. Ah,
ben là, je sais que Sanjay, il reste avec Keith Mitchell. Les deux sont en South Carolina, là, mais ouais.
Non, c'est des best buddies, là, ça.
Très bon. Fait que là, Nick, qu'est-ce qui s'en vient? Mexico Open.
Ouais.
Qui John est Ram le champion défendant? Oh, OK, 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 OK. Attends une minute, OK. OK, OK, OK,
OK, OK,
OK, OK, OK, OK, John Ram, champion défendant, field très faible, genre dans le très, très faible.
Ce que tu me dis, c'est la cinquième victoire, cinquième ou sixième?
Cinquième
victoire de la saison de John Ram.
Ça se peut, Nick, qu'on soit pas encore au mois de mai puis que John Ram ait 5 victoires.
Au livre, je vais aller checker voir la cote.
Ben, il... c'est sûr que ça doit être bon. Hey, je pense, ça se peut-tu, Nick, qu'il y ait 6 joueurs du top 50? Il y a vraiment pas beaucoup de monde, là. Tu sais, je descends les noms, là. Ceux qui, d'après moi, sont dans le top 50 mondial. Tu vois, je n'ai pas encore vu un. Qui est... Finau est là. Donc, Finau, c'est un gros nom. Qui est 16e au monde. Hey, c'est cool, ça. C'est, tu vois le nouveau site du PGA, Nick? Quand il parle du field, c'est écrit FedEx Cup World Golf Ranking. C'est écrit aussi comment ils se sont qualifiés. Ça, j'aime
dans
ça.
Quoi, ça?
Sur le site du PGA. Quand tu es sur la page du Mexique, quand tu ouvres la page du Mexico, mettons, tu vas dans Cédule, tu cliques sur Mexico Open. Quand t'es dans la...
Skin Boom.
Madeleine. Quand t'es dans Field, ça t'explique tout ça à cette heure. Il n'y avait pas ça avant. Mais tu vois, dans
non.
le top 50 mondial, Nick, il y a Tony Finau.
Ah, ben, regardons ça, moi.
Tu vois-tu ce que je vois, oui?
Ouais, ouais, ouais.
Il y a, dans le top 50, Nick, il y a Tony Finau. Il y a Alex Noren, qui est 50e au monde. Donc, ça, c'est discutable. Il y a John Ram. Et donc, ça fait 3. Ça fait 3.
3.
Il y a 3 gars du 3. Top 50, Nick.
3.
Tu veux-tu qu'on fasse le top 100? Gary Woodland. Ça fait
Wyndham
4.
Clark, Maverick McNealy et Emiliano Grono.
4. Après ça, mettons, on remonte.
Tu peux
4.
Les sorter par OWGR.
Ah, tu peux cliquer sur la petite patente en haut, c'est ça?
Ouais,
l'histoire.
Ça va t'aider.
Ah,
ouais.
Ben oui. Je pensais pas que c'était comme dans Excel, ça, là. Mais oui, fait qu'il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 gars du top 100.
Ah! Et... On se demande pourquoi il y a un tournoi libre en fin de semaine.
Ben, d'après toi.
Que dit?
Mais en plus, il est dans la nuit, là, fait que ça, c'est une autre histoire, là, en tout cas.
Donc,
mais,
si vous mettez 10$ sur John Ram... Vous allez gagner un profit net de 17,5. Donc, il est à hein? plus 2,75.
Attends une minute, là. Si je mets 10$, puis John non, Ram gagne, je fais 17$.
Excuse-moi, 27,5. Plus hein? 2,75.
Attends une minute, là. T'es en train de me dire que si je mets 10$ sur John Ram, puis il gagne, je fais 27$? Ben, je veux dire...
27,5, ouais, de profit.
Hey, c'est un bargain, si. Je vais mettre l'argent tout de suite. Hey, Nick.
Non, non, mais
on s'entend, il est pas dans la même catégorie, c'est... là. Voyons.
Oui, non, je comprends, là. Je comprends, mais le golf, normalement, c'était, mettons, une cote de 600, 700, 800, c'est quand même pas pire, là. C'est bon. Plus 2,75, plus 2,75... Au golf, c'est crissement mauvais.
Ben, je suis pas assez le betting pour ça, mais je peux te dire que moi, à ce prix-là, dans ma tête à moi, c'est quasiment 98% certain. Là. Mais en tout cas, qu'est-ce que je connais? Je connais rien là-dedans. Mais t'es obligé de te dire que t'sais, ça va être entre lui puis en tout cas, il va peut-être. Je dis ça, Nick, puis je le sais qu'il y a des gars qui sont 172e au monde qui ont des chances de compétitionner parce que c'est les gars sont ultra talentueux. Là. T'sais, Harry Hall pourrait très bien gagner son premier tournoi en fin de semaine. T'sais, je veux dire, tu comprends? Patton Kizzire est 204e au monde. C'est un gars qui peut gagner, il a déjà gagné. Mais je suis obligé de te dire qu'ils sont juste pas dans la même catégorie. Fait que si John Ram ne joue ne serait-ce qu'un peu bien, il oublie ça, là. C'est sûr qu'il gagne. En tout cas, on va suivre ça, on va suivre Liv. Est-ce qu'il y a un tournoi du Corn Ferry en fin de semaine? J'ai pas checké ça.
Si tu veux faire 40 cents, tu peux mettre 10$ que John Ram va faire la cote.
Ouais. 40 cents, ouais, c'est pas yop ça.
Tu mets 10$ puis tu fais 40 cents pour que John Ram fasse la cote.
Ouais. Il y a un tournoi du Corn Ferry en fin de semaine, Nick, après la côte ouest de la Floride. On se déplace du côté de l'Alabama pour le Hometown Lenders Championship à Huntsville, ooh, Alabama.
Alabama.
Donc, j'imagine que le field du Corn Ferry va être encore plus médiocre, considérant que le field du PGA n'est pas terrible. Puis comme de fait, mais t'as quand même des gars justement qui n'étaient pas exemptés sur le PGA. Fait que t'as quand même des gars qui sont là. Entre autres, on en a parlé un petit peu toi puis moi, Nick, mais Chris Gutterup, évidemment, qui va être là. Pearson Cootie qui est là aussi. Donc, deux noms qu'on connaît, qu'on vous a déjà parlé. Le Canadien Ben Silverman. Et le gars qui a joué 59 aussi, Mac Meisner, qui va être là. Évidemment, les gars performent.
59!
Hey, Nick, on l'a joué ce terrain-là, hein? Puis là, je suis allé voir, j'ai dit là, 59, là, c'est du sport. Même si tu joues, ah ouais, mais là, t'as joué des quels jalons?
Non,
si t'as joué 59, là, à ta minute, là. Mais là, je suis allé voir pour le fun, je m'en allais voir. Là, je check sa carte de pointage, puis là, il jouait inversé. C'est-à-dire que le vrai premier trou du terrain, eux autres, c'était le 10 et vice-versa. Mais là, le 18e, qu'eux autres jouaient le 9, il a fait un eagle. Mais là, je sais pas si tu te rappelles le 18, Nick. Là.
Le 18?
On l'a comme joué un peu, tu sais, la lumière achevait, mais on l'a joué, tu sais, nous autres, on le jouait dans l'arrière, que tu sais, c'est une drive comme par-dessus l'eau, puis la trappe, puis... Mais tu sais, tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens, moi, j'ai frappé fret, driver. Pardon. Ouais, ben, il faisait commencer à faire fret, la balle voyageait moins. Mais j'ai quand même frappé driver bois 3 puis j'étais au début du green là.
Ouais.
Là, je vois les images, le gars t'as 15 pieds, pas loin de l'eau pour le eagle, j'ai dit voyons Chris. Fait que là je vais voir la scorecard. Cette journée-là, il jouait le 18e 465 verges. Mais c'est un trou comme de 5, c'est un trou de genre 580 dans l'arrière. Fait que là j'étais comme Chris, ils ont mis le départ au départ des femmes là. À peu près, là.
Ouais.
Mais probablement que c'est ça qu'il voulait faire parce que on s'entend, Nick, même du départ, même du, mettons, à 465, on s'entend que c'était. Mettons, c'est un par 4, là, dans la crise de trou de golf, là. Tu sais, faut que tu drives au travers d'une trappe un peu en obstacle dans la pente. Puis là, ben, plus que tu arrives au green, il y a de l'eau avec une trappe à droite, avec le green comme fait sur le long. Si tu manques à droite, tu es dans l'eau. Tu sais, c'est quand même un trou de golf assez dur. Mais évidemment, là, les gars l'ont détruit parce que c'était un par 5 de. Mais là, j'ai dit, ah, OK, ça s'explique un peu mieux pourquoi qu'il y a. J'ai dit, eagle au 18. Et c'est le gars, il a joué au-dessus de sa tête. Mais là, quand j'ai vu qu'il jouait 465, j'ai dit, ah, OK, ouais, c'est quand même tout un score de golf. Mais il y a une couple de scores que j'ai été capable de m'expliquer un peu mieux, de dire, ah, ouais, OK. Ah, ouais, eagle, ça se peut à ce trou-là. Fait que c'est un peu ça. On avait-tu d'autres choses, Nick, sinon? Ou on était pas mal sur la pente descendante de la patente ou quoi, là?
Ouais, non. Ben, le premier Masters de la LPGA, on s'en fout un peu, là, mais le monde s'en fout un peu, mais on va en parler quand même. Là, c'est Lilia Wu, qui est une Américaine, qui était rankée, je pense, 11e ou 12e au monde depuis sa victoire en Asie, donc Lilia Wu, qui était le premier tournoi, le Chevron Championship, premier tournoi majeur du côté de la LPGA. Du côté du DP World Tour, pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est le gars avec la grosse oreille qui a gagné. C'était à Omitama, Japan, mais gagné sur en playoff sur un Canadien, Aaron Cockrell.
Cockrell,
qui roule sa bosse sur le DP Tour depuis longtemps. C'est sa meilleure performance de sa vie. Donc, mais c'est le gars avec la grosse oreille, Lucas Herbert, qui a gagné en fin de semaine sur le DP Tour.
Puis là, ben, le LPGA, j'ai vu qu'on s'en allait à LA. Donc, un autre tournoi en fin de semaine. Quand même beaucoup de golf ces temps-ci, les semaines, que ce soit le... le LPGA, le Champions Tour, le Corn Ferry, le PGA, Live, C'est un gros stretch de golf qui va nous amener justement au PGA Championship. Donc, on va surveiller ça avec une grande attention. Évidemment, ben, on vous fait un petit sommaire, puis on vous résume ça. Puis on vient vous parler de ressources humaines en plus. On fait de l'extracurriculaire dans ce podcast-là de golf. Mais évidemment, on va trouver un peu de temps au travers de nos cédules pour venir vous jaser un peu de golf. Nick, merci encore une fois d'avoir été là comme fidèle co-animateur. Ça fait quand même un bon bout qu'on fait ça, ce petit podcast-là. Mine de rien. Tu sais, on parle qu'on a moins le temps pis tout, là, mais je me trompe-tu en disant que ça fait pas mal 4 ans ou... Ben, pas 4 ans parce qu'on a arrêté, mais mettons, on a recommencé, ça fait au moins un bon 2 ans, là, si c'est pas plus.
2 ans, ouais. Ouais.
Fait que, tu sais, quand même, on est quand même fidèle au poste. On met peut-être pas autant d'énergie pis parce qu'on en a juste pas, là. Dans le développement de la patente, peut-être comme on pensait originalement, mais on est toujours bien content de venir vous jaser... de notre passion, les deux, à chaque, pas à chaque semaine, mais une couple de fois à chaque mois pour
à chaque
partager
deux, trois
un peu
semaines.
Ce qu'on voit, tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. On est toujours content. Je pense qu'on a trouvé un bon rythme. Puis vous autres aussi, tu sais, ça fait beaucoup de golf aussi pour quelqu'un qui regarde ça de façon sporadique. Je veux dire, c'est quand même des épisodes d'une heure et quelques qu'on fait la plupart du temps, etc. Fait que tu sais, ça en fait beaucoup sinon. Mais bref, bien content d'avoir été là avec vous.
Vos histoires de ressources humaines.
Oui, s'il vous plaît.
À le podcast sur Twitter.
Oui, envoyez-nous ça à le podcast sur Twitter, effectivement. Envoyez-nous vos meilleures histoires de HR. Puis on salue tous les gens qui travaillent dans ce département-là. S'il y en a qui écoutent le podcast. Ce dont je doute, mais quand même, on vous aime pareil, vous autres. Nick, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde à la maison. Et puis nous, ben, on se reparle dans un prochain épisode du podcast. Bye-bye!
Hey, girl.